Le Sénat valide à son tour le report des élections provinciales au plus tard à novembre 2025. D'autre part, le président du Sénat, Gérard Larcher, et sa collègue de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, seront sur le territoire du 9 au 14 novembre prochain. Un budget 2025 en recul de 18 milliards pour la province sud. Des choix douloureux vont être faits, ont constaté les élus qui ont procédé ce matin au débat d'orientation budgétaire. L'incendie qui sévissait à Boulou-Paris depuis lundi est désormais maîtrisé. Il a détruit plus de 1500 hectares de végétation et une maison. En métropole, le Conseil des ministres autorise Michel Barnier à utiliser le 49.3, mais pour l'instant, l'examen du budget 2025 se poursuit à l'Assemblée nationale, où l'opposition essaye de faire passer ses amendements. Le sport avec du football, Lille domine l'Atlético Madrid lors de la suite de la troisième journée de Ligue des Champions. De son côté, Brest a fait match nul un partout face au Bayer Leverkusen. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le plan S2R auquel le gouvernement est en train de mettre la dernière main résulte en grande partie d'une large consultation des acteurs économiques et sociaux. Alors que ce plan doit être connu dans le détail dans les jours qui viennent, les acteurs sont-ils satisfaits du travail accompli et quelles sont maintenant leurs attentes? Ce sera les sujets des jeudis de l'économie et Radio Rythme Bleu à retrouver dès la fin de ce journal. Nous serons en compagnie de deux représentants du monde syndical, Christophe Coulson, le secrétaire général de l'UTCFE-CGC, et Tony Dupré, le vice-président de la COGETRA, et de deux représentants d'ENSEECO, Mime Sidel, la présidente du MEDEF, et Stéphane Yotto, élu à la CCI. Les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet, se rendront donc en Nouvelle-Calédonie du 9 au 14 novembre. Les deux présidents doivent mener une mission de concertation et de dialogue, comme l'avait annoncé le Premier ministre Michel Barnier lors de sa déclaration de politique générale. Les dates de cette mission ont été rendues publiques au lendemain d'une réunion sur la Nouvelle-Calédonie organisée à l'Élysée sous la présidence d'Emmanuel Macron, en présence du Premier ministre, du ministre des Outre-mer et des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Le programme du déplacement de Gérard Larcher et de Yaël Braun-Pivet et la composition de leur délégation n'ont pas été détaillés à ce stade, mais la présidente de l'Assemblée nationale a précisé que l'un des objectifs, c'est de voir comment nous pouvons rouvrir le dialogue avec toutes les parties pour essayer de déterminer une feuille de route. Dans son entourage, on précise que la mission sera strictement parlementaire et indépendante et on souligne que Yaël Braun-Pivet comme Gérard Larcher sont reconnus comme des interlocuteurs avisés sur la question calédonienne et qu'ils connaissent bien les enjeux locaux. La confirmation de ce déplacement du 9 au 14 novembre est intervenue alors que le Sénat examinait le projet de loi organique sur le report des élections provinciales, Elisabeth Noir.
Et sans surprise, le Sénat a décidé à l'unanimité de reporter les élections provinciales jusqu'en novembre 2025 au plus tard. Un scrutin qui, vous le savez, devait initialement se tenir avant le 15 décembre 2024. C'est d'abord Patrick Kanner, le président du groupe socialiste au Sénat, à l'origine de la proposition de loi, qui a pris la parole. Il s'est adressé au ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, en soulignant que ce texte allait permettre de relancer le dialogue, mais qu'il ne s'agissait en aucune manière d'un blanc-seing pour le gouvernement.
La mise à disposition à votre profit de notre proposition de loi organique n'est pas un blanc-seing. Nous n'avons jamais considéré que cette proposition de loi organique était l'alpha et l'oméga de la résolution de la situation sur place. La complexité de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie appelle une réponse globale qui comprend l'avenir institutionnel, bien sûr, dont la nécessaire question du dégel du corps électoral pour les élections provinciales et le Congrès, mais aussi l'urgence de la reconstruction économique et sociale de l'archipel. Monsieur le ministre, après un long déplacement, vous aviez commis un rapport d'information avec messieurs Philippe Bas et Hervé Marseille. Dès le rapport d'étape en juillet 2022, vous préconisiez surtout de ne pas imposer, surtout de ne pas contraindre.
Nous aurions pu retirer le texte, mais en conscience et en responsabilité, nous allons aider le gouvernement à mettre en œuvre une position qui est juste, a ajouté le chef des sénateurs socialistes, qui a fustigé la méthode de l'ancien gouvernement et qui a directement interpellé le ministre des Outre-mer.
Buffet François-Noël, ancien président de la commission des lois, sera-t-il en osmose avec François-Noël Buffet, ministre des Outre-mer? Ministre, vous êtes désormais comptable de la situation. Et même si le président Emmanuel Macron porte la pleine responsabilité de la crise institutionnelle et existentielle dans laquelle est plongée la Nouvelle-Calédonie, eh bien, vous êtes maintenant aux affaires. Cette forme de gestion portée par le président de la République restera l'acmé de son obstination et de son entêtement.
Dans sa réponse à Patrick Kanner, le ministre des Outre-mer a d'abord dressé un tableau de la situation de la Nouvelle-Calédonie telle qu'il l'a constatée il y a seulement quelques jours.
La situation en Nouvelle-Calédonie est très, très préoccupante. Les événements du 13 mai dernier et des jours qui ont suivi ont été d'une violence inouïe, avec des conséquences dramatiques, et a provoqué pour la Nouvelle-Calédonie une situation économique et sociale extrêmement grave.
Nous sommes sur un point de bascule et il ne faut pas rater ce moment absolument important, a déclaré le ministre des Outre-mer, qui estime que ce délai pour l'organisation des provinciales doit permettre de donner à la Nouvelle-Calédonie un projet global qui l'inscrive dans son avenir. François-Noël Buffet qui s'est félicité qu'un accord sur le report des élections ait pu être trouvé tant à Paris qu'à Nouméa.
Outre le fait que le Conseil d'État, et vous l'avez rappelé, a donné un avis favorable à ce report, il faut saluer la décision du Congrès de Nouvelle-Calédonie qui, par 47 voix pour, 2 abstentions et 1 voix contre, a confirmé qu'il souhaitait également ce report. Ce qui constitue une situation tout à fait remarquable, dont on peut interpréter le fait qu'elle s'inscrit aussi dans une logique qui consiste maintenant à s'engager dans un processus de reconstruction immédiate sur le plan matériel et économique, nous en sommes parfaitement d'accord, mais aussi de réouvrir la discussion institutionnelle.
François-Noël Buffet qui a aussi rassuré Patrick Kanner quant à la continuité de son action.
Nul doute qu'elle doit être réouverte. Nul doute que nous reparlerons de l'ensemble des dossiers. Mais il faut le faire dans un climat apaisé et je le dis tout de go au président Kanner, mais au rapporteur et à l'ensemble des sénateurs présents dans cet hémicycle, que je m'inscris en tous les cas dans les conclusions du rapport de 2022 et que François-Noël Buffet, président de la Commission des lois, est en tout point incomparable à François-Noël Buffet, ministre des Outre-mer aujourd'hui. C'est aussi une cohérence et de bonne santé, me semble-t-il, que de faire ainsi.
Dans le débat, c'est le sénateur Georges Naturel qui s'est exprimé pour le groupe des Républicains. Il expliquait que le report des provinciales était indispensable pour 2 raisons majeures. La situation de crise en Nouvelle-Calédonie et l'attitude de l'État qui a, dit-il, été aux abonnés absents pendant plusieurs mois. Georges Naturel aurait préféré que le report des élections n'aille pas au-delà du 31 mai 2025, car elle pourrait se télescoper, selon lui, avec d'autres élections.
Organiser des élections provinciales dans les délais prévus, c'est-à-dire avant le 15 décembre prochain, est en effet inenvisageable. La situation économique est calamiteuse, l'investissement des entreprises et des acteurs économiques est au point mort, les services publics sont sous tension permanente. Dans un tel contexte, comment peut-on raisonnablement imaginer mener une campagne électorale digne de ce nom? Comment des candidats pourraient-ils porter des projets clairs et fédérateurs alors même que les fondements de notre société sont ébranlés? Il serait donc souhaitable que ces élections aient lieu au premier semestre 2025, dans un délai qui permet à la fois de préparer un débat de fond serein et constructif, mais aussi de ne pas s'entremêler avec les autres échéances électorales majeures que nous anticipons pour les mois à venir.
Le sénateur Robert Rouy est intervenu quant à lui au nom du groupe communiste République et Territoires et Écologie Kanaky. Comme Georges Naturel, il aurait préféré que les élections provinciales aient lieu avant le 31 mai 2025. Il avait d'ailleurs déposé un amendement en ce sens qui a été rejeté, mais il n'est pas opposé au report.
Comme une majorité des membres du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, je ne suis pas opposé sur le principe au report de ces élections pour au moins 2 raisons. Permettre l'adoption d'un budget 2025 afin d'assurer une continuité dans le fonctionnement des institutions calédoniennes et traiter les urgences sociales, mais également une rentrée scolaire dans un contexte apaisé. La question, c'est plutôt pour combien de temps? Je rappelle que le mouvement du 13 mai a clairement sanctionné le passage en force du précédent gouvernement et en même temps exprimer une profonde défiance de la classe politique tout bord confondu. Alors que s'ouvre une nouvelle période de discussion, il va falloir rapidement redonner par les urnes de la légitimité politique aux responsables qui vont reprendre ces échanges et réécrire une nouvelle page de notre histoire.
Et il faut noter que le groupe communiste République et Territoires et Écologie Kanaky est le seul à s'être abstenu lors du vote sur la proposition de loi organique. Après cette adoption à l'unanimité par le Sénat du report des provinciales jusqu'à fin novembre 2025, c'est l'Assemblée nationale qui examinera le texte dès le 6 novembre. Dans un communiqué, le député Nicolas Metzdorf indique que cette adoption par le Sénat est dans le contexte actuel une bonne nouvelle pour la Nouvelle-Calédonie. Pour lui, il était inenvisageable d'imaginer organiser des élections provinciales alors que le rétablissement de l'ordre n'est toujours pas complet. Il ajoute que son implication commence dès aujourd'hui avec son audition par les rapporteurs du texte de la Commission des lois de l'Assemblée nationale.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS avec la réponse à notre question d'hier. Après l'avis favorable mardi des élus du Congrès, 85% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS se disent eux aussi favorables au report des élections provinciales à fin novembre 2025. Ils sont 15% à dire qu'ils sont opposés à ce report. Voici notre question du jour. Êtes-vous favorable à l'autorisation de l'importation des produits en matière plastique et notamment des barquettes, comme le propose le gouvernement ? Si vous y êtes favorable, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Envoyer un message à Paris, c'est ce qu'ont souhaité les élus de la province sud ce matin lors du débat d'orientation budgétaire. La collectivité est au bord du gouffre après les exactions du 13 mai. Elle pourrait même se retrouver en cessation de paiement au mois de novembre. Sans aide immédiate de l'État, elle devra voter un budget en baisse de 18 milliards. On retrouve sur place Nicolas Legrand.
Oui, le budget passerait donc de 57 milliards cette année à 40 en 2025. Cela entraîne des décisions douloureuses selon la province sud. Dans le débat d'orientation budgétaire, l'exécutif a indiqué que le budget d'investissement pourrait être divisé par 2, voire par 4. La province serait aussi contrainte de mettre fin à certaines politiques publiques, en matière sociale notamment. Afin de dégager 17 milliards d'économies, elle devra fermer les CMS, les internats provinciaux, supprimer les bourses scolaires, réduire massivement les subventions aux associations, tout comme les aides aux entreprises et aux agriculteurs. Sonia Baquès a estimé qu'il ne s'agissait pas de choix à faire, mais qu'il s'imposait à la collectivité. La présidente de la province sud, qui a eu des mots très durs à l'encontre du ministère de l'économie, Bercy se positionne aujourd'hui comme le fossoyeur de la Nouvelle-Calédonie. L'État doit nous accompagner avec des aides à l'investissement et non pas en nous mettant la tête encore plus sous l'eau avec des prêts. C'est ce qu'elle a déclaré. Les débats ont donc été l'occasion d'affirmer à l'État que sans une aide massive et immédiate, la Nouvelle-Calédonie s'enfoncera dans le gouffre. Philippe Michel a été le premier à prendre la parole pour évoquer cet effondrement total de la Nouvelle-Calédonie faute d'une aide de l'État à la hauteur des enjeux. Il affirme que ce débat d'orientation budgétaire a pour vocation d'alerter l'État solennellement sur la situation réelle, mais aussi d'afficher l'unité des élus pour soutenir les plans de relance. Pour Virginie Ruffnac, il est aussi essentiel de défendre la collectivité de manière unanime pour demander à l'État de soutenir la province, car ce n'est pas à la population de subir les conséquences des violences. Vaïmoua Mouliava parlera, lui, de choix de Sophie. Pour l'élu de l'éveil océanien, la province doit faire des choix qui s'avéreront, quoi qu'il en soit, tragiques. Nina Julier, de son côté, a tenu quant à elle à pointer du doigt la responsabilité de la CCAT, qui oblige aujourd'hui les institutions à quémander l'aide de l'État. Alors, très peu d'interventions des élus indépendantistes ce matin. Aloysio Sacco a tout de même pris la parole pour le groupe FLNKS Sud. Il estime qu'il y a eu des dérapages dans les propos des élus qui ont incriminé la CCAT. Ça nous gêne de demander l'aide de la France, c'est ce qu'il a déclaré, avant d'exhorter l'exécutif à veiller à ce que les droits fondamentaux des citoyens soient sauvegardés. Sonia Baquès lui a alors répondu que c'était l'objectif de tous, mais qu'il fallait aujourd'hui que ceux qui ont soutenu la CCAT favorisent le retour à l'ordre et la reconstruction pour garantir à nouveau les minima sociaux. Les chefs de groupe qui ont été invités ensuite à adresser un courrier à l'État pour demander un soutien à la collectivité. Quant au vote du budget primitif, il est prévu le 5 décembre prochain. À la province sud, Nicolas Legrand, RRB.
Il est 11h44, une première pause dans ce journal. Dans un instant, le reste de l'actualité sur le territoire. Nous verrons notamment que l'incendie qui sévissait à Boulou-Paris depuis le début de la semaine est désormais sous surveillance.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Opération hybride chez Toyota. Profitez de nos offres avec Toyota Nouméa, Toyota Kone et Toyota Lifu. La Toyota Yaris à partir de 33 900 francs par mois, entretien inclus. La Toyota Yaris Cross à partir de 39 900 francs par mois, entretien inclus. Le Toyota CHR à partir de 39 900 francs par mois, entretien inclus. La Toyota Corolla Cross à partir de 45 900 francs par mois, entretien inclus. Et le Toyota RAV4 à partir de 59 900 francs par mois, entretien inclus. Opération hybride, c'est aussi chez Toyota Occasion, avec des remises allant jusqu'à moins 500 000 francs. Toyota reste ouvert en continu de 7h30 à 17h. Alors passez nous voir, même à midi, voire conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Vous rêvez d'une nouvelle cuisine ? DCSM vous propose des cuisines à votre style, adaptées à votre intérieur. DCSM, c'est des cuisines de qualité pour tous les budgets.
Venez découvrir votre future cuisine dans notre showroom, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
La suite de l'actualité en Calédonie et après 4 jours de lutte contre l'incendie qui a ravagé une partie de Bouloupari, les pompiers ont réussi ce matin à maîtriser le sinistre. L'heure est désormais à la surveillance et à la suppression des derniers points chauds, Léana Colombo.
Plus de 1500 hectares sont partis en fumée lors de cet incendie qui a nécessité l'activation hier du plan hors sec feu de forêt de niveau 2. De nombreux dégâts sont à déplorer. Une maison a été entièrement détruite par les flammes. Le réseau d'eau et électrique a été abîmé par endroits et un pompier a été légèrement blessé. Hier soir, l'incendie qui s'était propagé dans la zone industrielle de la commune a nécessité l'évacuation temporaire d'un lotissement. Dans un communiqué, la province sud annonce apporter son soutien à Bouloupari et ses habitants. Elle remercie également tous les acteurs impliqués lors de cet incendie, professionnels comme particuliers. Cette épreuve touche la Nouvelle-Calédonie déjà lourdement affectée et affaiblie par les événements cette année. Fin de citation.
Demain vendredi, le conseil d'administration de la CAFAT désignera son nouveau président, un poste tournant chaque année qui revient tour à tour au collège des employeurs et au collège des salariés. Patrick Dupont va terminer son premier mandat au nom des organisations patronales. Il était ce matin notre invité. Les émeutes du 13 mai ont évidemment pesé sur les comptes sociaux, notamment sur le RUAM, déjà en grave difficulté. Sans l'aide de l'État, la CAFAT n'aurait pas pu faire face, nous a dit Patrick Dupont.
Pour le RUAM, on a déjà pu percevoir de la part de l'État à travers la Nouvelle-Calédonie 5 milliards il y a à peu près 2 mois, nous permettant de payer effectivement la dotation globale de fonctionnement sur les mois de septembre, octobre et novembre. Et on devrait recevoir un nouveau montant, peut-être l'équivalent, peut-être un peu moins, c'est en discussion, qui nous permettra effectivement de continuer à payer la dotation globale de fonctionnement, au moins sur le mois de décembre.
En raison des émeutes, la CAFAT va enregistrer cette année une baisse de 15 milliards de ses cotisations environ par rapport aux prévisions 2023. Là encore, l'aide de l'État est décisive, notamment pour assurer la prise en charge du chômage partiel. Mais ce qui préoccupe la CAFAT, c'est la prise en charge des chômeurs de droit commun, dont le nombre a fortement augmenté depuis le 13 mai.
Notre grande inquiétude, c'est l'augmentation du régime de droit commun. On avait l'habitude de gérer ce régime avec environ 2500 chômeurs. Aujourd'hui, en à peu près 5 mois, 6 mois, on est passé à 5000, en incluant effectivement les 1000 personnes qui ont été licenciés de KNS. Donc c'est extrêmement important. Globalement, on a des régimes chômage qui là aussi sont financés par des subventions de l'État et de la Nouvelle-Calédonie. Donc on finance tout ça sur l'ensemble de ces subventions, mais ça va être compliqué. Et nous, ce qui nous préoccupe aussi, ce qui nous préoccupe le gouvernement et l'État, c'est la sortie de tous ces chômeurs au bout des 9 mois de dispositif. Et là, on est en train d'étudier, de voir qu'est-ce qui se passe actuellement? Les chômeurs qui sortent, où vont-ils? Est-ce qu'ils vont dans d'autres dispositifs? Est-ce qu'ils prennent des patentes? Où est-ce qu'on les retrouve? Voilà, parce qu'en fait, il faut qu'on arrive peut-être à imaginer, avec les financements qui vont avec, ça c'est bien le problème numéro un, mais il faut qu'on arrive à imaginer peut-être un dispositif de sortie du chômage total.
Sans l'aide de l'État, la CAFAT ne pourra pas faire face à ses obligations, mais le président sortant du conseil d'administration souligne aussi que plusieurs dispositifs du plan S2R du gouvernement offrent des perspectives d'amélioration dans le domaine de la gestion de la santé.
L'idée aujourd'hui de revoir la carte sanitaire, parce qu'à la fois pour des problèmes de financement et aussi bien évidemment pour des problèmes de manque de soignants, que ce soit des médecins, des infirmiers, etc. On demande notamment une meilleure collaboration entre le CHT et la clinique pour éviter les doublons. On demande à revoir aussi l'organisation de la carte sanitaire dans le Nord. On a demandé aussi à ce que le refinancement des dettes de RUAM soit inclus dans les plans de sauvegarde, parce que ça permettra effectivement de résoudre ce problème et de remettre des financements dans le circuit, notamment au niveau des fournisseurs du Medipôle. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été reprises et qui, effectivement, à la fois au niveau du conseil d'administration de la CAFAT et des organisations patronales et syndicales, nous satisfont.
Patrick Dupont, le président sortant du conseil d'administration de la CAFAT, qui était donc notre invité ce matin, entretien retrouvé en intégralité sur notre site internet. Le chanvre peut-il être une filière d'avenir en Nouvelle-Calédonie? Depuis la fin de l'année dernière, une expérimentation pilotée par l'Agence rurale et ses partenaires sur la culture du chanvre industriel est réalisée sur le territoire. Elle a pour objectif de connaître la compatibilité de certaines semences de chanvre avec le climat local pour ensuite investir dans la filière. Ces tests sont réalisés par le Centre de recherche et d'expérimentation agronomique de la Technopole sur des parcelles situées à Nessadiou. Après plusieurs mois d'études, c'est aujourd'hui que les résultats en termes de potentiel économique sur le marché calédonien seront dévoilés. Réparer plutôt qu'acheter du matériel neuf, c'est ce que tente de valoriser la Chambre des métiers et de l'artisanat. Elle lance la semaine prochaine la marque Répar Acteur, un annuaire en ligne répertoriant les réparateurs sur tout le territoire, Charlotte Coulson.
Et ça concerne une large variété de produits, des appareils électroménagers aux outils de jardinage, en passant par les vêtements et les téléphones. Ce sont en tout près de 40 artisans répertoriés sur le réseau de la CMA et situés de Point-d'Imier à Nouméa. Une cartographie mise en place pour valoriser l'économie durable et locale, comme l'explique Elisabeth Rivière, la présidente de la CMA.
Deux raisons principales m'ont poussé à pousser les équipes sur ce projet. Déjà, c'est ne plus jeter, parce que jeter, c'est beaucoup de déchets, et ces déchets, nous devons les traiter. Et c'est aussi laisser de l'économie sur notre territoire et permettre de développer de petites entreprises sur l'ensemble du territoire et permettre aux gens de développer leur activité professionnelle au plus près de leur lieu de vie. Le pouvoir d'achat des Calédoniens a été largement impacté par cette crise et on voit bien que les gens se tournent aussi aujourd'hui vers l'achat d'électroménager, moi j'appelle du recyclé, réparé, parce que on a moins d'argent dans cette période difficile économiquement, ça dépanne et puis ça permet aux gens de continuer à pouvoir avoir cet électroménager.
Et pour les artisans participant au projet, c'est un moyen de se faire connaître. Manuel Trouillot est gérant de la société ALD Électroménager et Tom Maury de ProSuspension. Tous deux se sont engagés dans le réseau Réparacteur pour développer le marché de la réparation sur le territoire.
Alors, il y a une très grosse difficulté en Nouvelle-Calédonie. On a une problématique très particulière où énormément de commerçants sont restés dans le concept de l'économie de comptoir, c'est-à-dire de vendre et de ne pas assurer de service après-vente derrière. Donc nous luttons férocement contre ce système économique pour le faire évoluer les choses. Tout ce qui a été présenté aujourd'hui dans le réseau Réparacteur va à 100% dans notre démarche, tout à fait. Oui.
Pour le pousser encore un peu, mais je pense que le plus important, c'est vraiment sensibiliser les gens à savoir que voilà, on existe, on est là, qu'on peut réparer aussi. Donc une fois que les gens le savent, après, ça va assez vite. On va dire. Surtout ici, comme on le disait, le bouche-à-oreille, ça marche très bien. Très content. Et une fois que les gens auront le réflexe d'aller un peu sur ce site et de fouiller et de trouver toutes ces personnes qui puissent se réparer leurs biens, donc c'est cool.
Un projet de la Chambre des métiers et de l'artisanat en partenariat avec la province sud, la province nord et l'ADEME. Pour valoriser le marché de la réparation en Calédonie, la CMA souhaite faire évoluer le projet en proposant la mise en place d'un bonus réparation comme il existe déjà en métropole. En attendant, l'adhésion au réseau de réparateurs reste ouverte aux nouveaux artisans. Pour les particuliers souhaitant faire réparer leurs biens, rendez-vous sur le site internet réparacteur au pluriel -cma.nc dès lundi prochain.
Le roi Charles III d'Angleterre et son épouse Camilla poursuivent leur visite dans la région. Le couple royal est arrivé à Apia, la capitale des Samoa, qui constitue le but de leur tournée. Ils vont en effet participer à partir de demain au 27e sommet de ce que les anglo-saxons appellent le Shogum, c'est-à-dire le sommet des chefs de gouvernement des pays du Commonwealth. Jean-Pierre Zajac.
Cette réunion biennale revêtira un aspect particulier, vu qu'elle marquera également le 75e anniversaire de la création du Commonwealth, lequel est souvent décrit comme étant une famille de nations, vu que 56 États en font partie. Le thème retenu cette année est un avenir commun résilient, comment transformer notre Commonwealth. Les débats proprement dits débuteront demain vendredi par un discours du roi Charles III, dont ce sera la première participation en tant que monarque. Ils seront abordés plusieurs thèmes de discussion relatifs aux États membres du Commonwealth avant la diffusion d'un communiqué final dans la soirée de samedi. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 11h55. Dans un instant, on voit ce qui fait l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Envie de lui faire plaisir? Offrez-lui un bijou Créator. Créator, c'est plus de 4000 références et autant d'idées cadeaux. Deux adresses, Alma et 7e kilomètre. Créator, le plus grand choix de bijoux de Nouvelle-Calédonie.
En cas d'urgence, chaque seconde compte. Choisissez la confiance. Choisissez les ambulances Saint-Jacques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Rapide, fiable, il n'y a pas de jour sans les ambulances Saint-Jacques. Votre sécurité est notre priorité. Téléphone 25 27 27.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole et dans le monde, c'est la suite de FOMAG en retour Jean-François Baudin.
Et Michel Barnier peut utiliser l'article 49.3 pour faire adopter le budget 2025 sans débat. Le Conseil des ministres a validé cette option mise à disposition du Premier ministre alors que les députés poursuivent l'examen du volet recettes de ce budget 2025 de la France. L'opposition essaye de faire passer des amendements pour modifier le texte initial et si les débats se prolongent, Michel Barnier pourra donc utiliser l'article 49.3. On s'y attendait sur tous les bancs de l'Assemblée. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
En l'absence de majorité, ce n'est une surprise pour personne, à l'image de Sandrine Rousseau.
Bah on le savait avant même de commencer la première ligne du texte. Et pour autant, on a un devoir qui est de pousser les amendements, puisque c'est notre mandat de pousser chaque amendement, de se battre sur chaque amendement. Oui, c'est assez décourageant par moment, ça je ne vous le cache pas.
Comme elle, en dépit du 49.3, la grande majorité des députés souhaite faire adopter le maximum d'amendements dans l'espoir qu'ils soient retenus dans la version finale par Michel Barnier. Manière de mettre la pression sur le Premier ministre, qui s'est dit ouvert à la discussion. Pour le député LR, Fabien Di Filippo, les débats sont ainsi loin d'être inutiles. Ils permettent, selon lui, de clarifier aux yeux des Français les positions de chaque groupe.
Ça finira, je pense, c'est comme ça que ça semble inévitable, vers un 49-3. Mais tout ce qui se passe jusqu'à ce 49-3 doit éveiller les consciences et montrer aux Français qui réellement est capable de défendre leurs intérêts, de défendre le travail et de redresser le pays.
Et de manière générale, peu nombreux sont les députés qui en veulent à ce gouvernement, lucide sur la situation qui limite drastiquement la possibilité d'avoir recours au vote sur le budget.
Dans l'actualité en métropole, toujours une nouvelle fusillade à Grenoble. Un adolescent de 15 ans a été tué, un homme de 47 ans blessé. La fusillade a eu lieu sur un point de deal de la ville où deux gangs s'affrontent depuis plusieurs semaines. C'est la 50e fusillade à Grenoble depuis le début de l'année sur fond de trafic de drogue. Et puis un moment fort au procès de Dominique Pénicaud et des 50 co-accusés. Dominique Pénicaud a drogué sa femme pendant une dizaine d'années en permettant ensuite à des hommes recrutés par Internet d'abuser d'elle. Pour la première fois depuis le début de ces procès, qui s'est ouvert depuis plus d'un mois, la victime s'est adressée directement à l'homme qui a partagé sa vie pendant 50 ans, Nina Pavon pour Europe 1.
Sans même le regarder, Gisèle Pélicot lui a asséné plusieurs questions qui probablement la hanteront toute sa vie. Comment as-tu pu en arriver là? Comment as-tu pu faire entrer ces inconnus dans notre chambre? J'avais mis toute ma confiance en lui, a-t-elle ajouté pour la cour. J'ai 72 ans et je ne sais pas si la vie qu'il me reste me suffira pour comprendre. Stoïque, elle est ensuite revenue sur les différentes déclarations entendues lors du procès, notamment celles des proches, des accusés, ces femmes qui ne veulent pas croire que leur mari est capable de violer. Elle leur a dit « Moi aussi, j'avais un homme parfait à la maison ». Une prise de parole qui a bouleversé Bérangère, venue assister à l'audience.
Ça me choque, bien sûr, ce que cette femme a vécu et ce qu'elle a pu entendre. Mais je pense que ça doit être terrible pour elle. Elle a beaucoup de colère, mais elle est très droite, c'est-à-dire qu'elle est là pour dire la vérité. Et je la trouve formidable pour tout ça.
« Je suis une femme trahie et violée », a résumé Gisèle Pélicot. « Je n'ai pas de courage, mais de la détermination et de la volonté pour que les victimes n'aient plus honte. » Avignon, Nina Pavan, Europe 1.
L'actualité à l'étranger, avec ce regain de tension en Turquie, un commando armé a perpétré un attentat non loin de la capitale, Ankara. L'attaque, dont les circonstances restent floues, aurait fait 5 morts et plus de 20 blessés, parmi lesquels 7 policiers. Un attentat qui n'a pas été revendiqué, mais il est attribué au PKK, le parti séparatiste kurde, par le pouvoir turc qui a mené des opérations de représailles contre des positions kurdes dans le nord de l'Irak et en Syrie. On est au début de la fin de la guerre. Déclaration du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a accordé une interview à CNews et Europe 1 à Jérusalem. La guerre contre le Hamas et le Hezbollah engage Israël sur plusieurs fronts, mais elle porte ses fruits, a notamment expliqué Benjamin Netanyahou.
On est au début de la fin, on n'est pas encore vraiment à la fin. Et je veux que les Français m'écoutent et m'entendent. Nous ne combattons pas seulement notre pour nous, mais nous combattons pour vous aussi. Ce n'est pas seulement du terrorisme, c'est pire que cela. Ces gens-là vous tueraient tous s'ils le pouvaient. Nous combattons ces terroristes, ce sont des islamistes radicaux. Ils assassinent des chrétiens, des arabes, des juifs, ils assassinent tout le monde. C'est une guerre de civilisation contre la barbarie et nous sommes en tête de cette guerre et la France doit soutenir l'Israël.
Concernant la situation à Gaza, pas question d'un quelconque cessez-le-feu tant qu'il restera des otages sur place, a dit le Premier ministre israélien. Otages qui ont été enlevés le 7 octobre 2023, cela fait donc plus d'un an. Il reste encore une centaine d'otages détenus par le Hamas, dont deux Français.
Nous avons libéré 117 otages en vie. Notre objectif, c'est que tout le monde revienne. Cette guerre ne finira pas tant qu'il y a encore des otages qui ne sont pas libérés. Nous voulons ramener ceux qui sont vivants et ceux qui ne sont malheureusement plus vivants. Nous voulons les ramener à leur famille. C'est un objectif sacré que nous avons et nous allons y arriver. Nous allons y arriver parce que nous mettons la pression de la bonne manière.
Benjamin Netanyahou sur CNews et Europe 1. Il est midi et une minute. Dans un instant, quelques mots de football avant de retrouver les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, Cheyenne raconte une histoire aux tout-petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dom, la boutique des tout-petits. Petit Dom, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dom, on n'hésite plus, on y va.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite d'InfoMag avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Avec du football dans cette page de sport et deux clubs français jouaient ce matin la troisième journée de Ligue des Champions, Léana.
Et une victoire de plus pour Lille. Moins d'un mois après avoir fait tomber le Real Madrid, le LOSC s'offre un nouveau club espagnol à l'extérieur. Victoire 3-1 face à l'autre géant de la capitale, l'Atlético de Madrid. Un exploit renversant malgré une équipe expérimentale. L'entraîneur lillois Bruno Genesio avait fait le choix de reposer plusieurs cadres pour le derby à Lens, programmé ce dimanche à 6h. Un choix tout simplement payant. Écoutez la réaction de Jonathan David, auteur d'un doublé dans cette rencontre pour le LOSC.
Ça a été un match compliqué. On savait que jouer à l'extérieur, c'est jamais facile, surtout face à l'Atlético. Même si on est mené en première mi-temps, je pense qu'on a tous le sentiment qu'on peut faire quelque chose dans le match. On se l'est dit à la mi-temps, on a changé quelque chose. On a eu de l'efficacité, de la réussite. Et je pense à partir du but des Don, qu'on revient à égalité, je pense qu'on commence beaucoup plus à y croire qu'on peut aller chercher un résultat. Et voilà ce qui s'est passé. C'est pas à chaque jour qu'on a la chance de jouer contre ces grandes équipes. Et pour moi, c'est un plaisir de jouer ces matchs et encore plus de marquer comme attaquant. C'est sûr qu'on sait que c'est un match très important, un des plus gros matchs de la saison. Alors on va profiter de cette soirée, mais tout de suite, à partir de demain, se concentrer pour le derby.
Jonathan David qui a donc marqué à la 74e et la 89e minute face à l'Atlético de Madrid. Autre rencontre, Brest a affronté le Bayer Leverkusen, le champion d'Allemagne en titre. Malgré une performance solide des Brestois à domicile, c'est sur un nul que se sont quittés les deux équipes. Avec 7 points en 3 matchs, les esprits sont désormais tournés vers une qualification pour le prochain tour de Ligue des Champions.